France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Depuis 25 ans, elle marie la folk, le blues, la musique arabo-andalouse, le chabi algérien, Swad Massi sort un nouvel album. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais je sais que c'est la critique que vous réclamez à corps et à cri. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui on parle actualité des séries avec au menu Blossoms Shanghai, chronique fleuve, énorme succès en Chine de Wong Kar-wai et Un prophète, déclinaison sérielle du film du même nom réalisé par Jacques Audiard. Vous écoutez les Midi de Culture, oh, mais je vous vois très bien, vous savez. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Charles Bosson, critique, auteur et documentariste, bonjour.
Bonjour Marie.
Olivier Joyard, critique et réalisateur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Vous avez peut-être reconnu comme nous un petit air de succession dans ce générique, la série américaine. On commence donc, je l'ai dit, avec Blossoms Shanghai, cette fresque diffusée en Chine il y a 3 ans qui a connu alors un succès populaire considérable. 30 épisodes de 45 minutes, c'est le format traditionnel des dramas chinois, tous réalisés par un immense cinéaste hongkongais, j'ai nommé Wong Kar-wai. Allez, je vous fais l'affront de vous citer quelques-uns de ses films. Je suis à peu près certaine que des images, des lumières, des matières vont apparaître dans votre esprit. Happy Together, In the Mood for Love, 2046. Avec cette série, le réalisateur s'éloigne de ses drames et de ses personnages en marge. Là, il revient à sa ville natale et il nous conte l'ascension d'un jeune homme d'affaires dans un Shanghai du début des années 90 en plein essor capitaliste. On commence avec quelques mots d'abord, Olivier Joyard.
Ouais, c'est vrai qu'on entend cette musique qui ressemble à celle de Succession. Bon, la série en elle-même est assez éloignée quand même dans son style et dans ce qu'elle raconte, même si on pourrait lui trouver des points communs avec Succession, mais c'est surtout évidemment le retour d'un cinéaste adoré, mythique, qu'on croyait peut-être fini. Je crois qu'il n'a pas tourné depuis 2008, me semble-t-il, en tout cas pas sorti de film. Et le simple fait de respirer à nouveau le même air que lui, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et au-delà de ça, la série déjoue pas mal de nos attentes, de nos fétichismes aussi par rapport au cinéma de Wong Kar-wai. C'est ce qui m'a vraiment intéressé.
Charles Bosson.
Ah ouais, sur un désaccord franc, pour moi, c'est vraiment une déception monumentale. J'ai l'impression de chuter de 20 étages de déception. C'est une déception presque de la décennie, puisqu'effectivement, on l'a attendu énormément, cette série. Elle a été teasée, elle était énorme. Et voilà, je me suis ennuyé à mourir. J'arrive pas à aller au bout. Et j'étais très content qu'on ait que 10 épisodes au lieu de 30. Et j'en garde un peu pour le débat.
Alors, Olivier Joyard, en quoi elle défétichise notre regard sur Wong Kar-wai?
En fait, il y a déjà un sujet qui est l'essor économique de Shanghai dans les années 90. Donc dans les pas de Hao Bao, qui est un jeune loup de la finance, qui fait son apprentissage du monde concurrentiel post-Mao. En gros, c'est une explosion dont on subit encore les conséquences aujourd'hui. Et le premier réflexe, évidemment, pour quiconque a vu In the Mood for Love, peut-être The Grandmaster ou Chungking Express, c'est de traquer, comme ça, dans Blossoms Shanghai, les restes du génie de Wong Kar-wai, parce que, bon, ben voilà, il a régné avec David Lynch, quoi, sur, je dirais, une bonne décennie de cinéma, hein, autour de même 15 ans, quoi, 90-2005, à peu près. Et il nous redonne de ses nouvelles par un biais assez inattendu, puisque, bon, alors, il avait quand même, je crois, commencé sa carrière en tant que scénariste de soap. Donc on peut dire que c'est le parcours typique d'un cinéaste, peut-être en Chine, surtout quand on a envie d'être un cinéaste indépendant, ce qui n'est pas évident, enfin à Hong Kong en tous les cas. Et on retrouve donc, c'est la première approche des traces. La première trace, c'est un peu évident, c'est le souvenir de Tony Leung Chiu Wai à travers l'acteur principal, qui s'appelle Hu Jie, et qui est une sorte d'autre modèle d'homme élégant et mélancolique, comme ça. Évidemment, en dessous de l'original. Et c'est quand même ce qu'on retient d'abord, si on cherche absolument à retrouver le geste de Wong Kar-wai, à retrouver son style, les ralentis, la musique, les effets de transparence, ce monde à la fois du détail, du souvenir immédiat, qui était vraiment extraordinaire, quoi. Enfin, dans In the Mood for Love et même dans Chungking Express, il y avait vraiment cette idée que tout ce qu'il filmait était déjà fini à l'instant même où ça s'évaporait sous nos yeux. Là, il doit tenir autre chose, c'est-à-dire qu'il doit filmer une histoire, un récit, 30 épisodes dont on a effectivement pu voir que les 10 premiers, et il y a quand même ce sujet qui est une sorte de microcosme, quoi. C'est à la fois un moment de l'histoire de la Chine contemporaine et un microcosme, et là, il s'amuse. Moi, je trouve vraiment que si on recherche à retrouver le frisson des films de Wong Kar-wai, c'est une fausse piste. Pour moi, en fait, sa mise en scène est devenue une sorte de direction artistique. C'est-à-dire, c'est souvent le cas pour moi, dans les grands réalisateurs à la télé, sauf, je dirais, ceux des années 70, Piala, par exemple, ou Scène de la vie conjugale de Bergman, où vraiment, il y a une touche de cinéaste qui est très visible. Aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de plus-value que le marché recherche chez les réalisateurs. Et Wong Kar-wai, il est complètement là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est que il y a quand même quelque chose de son identité qui est en jeu, quoi. C'est-à-dire son identité de cinéaste. Et puis son identité d'homme, qui donc est né à Shanghai, a quitté la ville à l'âge de 5 ans, donc au début des années 60. C'est une période qu'il a beaucoup filmé, les années 60. Et là, donc, il revient là-bas 30 ans plus tard, et donc il n'y a qu'un goût de cendre pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment... C'est une époque qu'il n'a pas connue, mais qui est restée comme ça, ancrée en lui quelque part. Et donc voilà, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de... Encore une fois, ce serait une fausse piste de rechercher dans cette série vraiment à... comment dire, à retrouver, à se remettre dans les rails du cinéma de Wong Kar-wai, pour moi.
Alors, Charles Bosson.
Alors, par où commencer? Déjà, l'attente. Je pense que quand on a appris l'existence de cette série, ce côté monumental, le fait que Wong Kar-wai avait signé tous les épisodes, malheureusement, il était impossible de ne pas se projeter sur, justement, une de ces grandes séries de cinéastes, dans la lignée, je dirais, du Berlin-Alexanderplatz de Fassbinder. En plus, Berlin-Alexanderplatz, c'est un quartier. Blossom Shanghai se passe quasiment entièrement dans la rue Wang-e. Qu'il arrive à reconstituer, dans laquelle il s'installe comme un studio de plus de 30 000 mètres carrés, dans lequel il s'installe, dans lequel il produit du style. C'est-à-dire que dès le début, on est quand même assez touché, sensible à cette mise en scène hyper dynamique, hyper inspirée, mais qui très vite tourne complètement à vide. C'est-à-dire qu'elle est au détriment absolu des personnages. On est en permanence en train de regarder des surfaces, des personnages complètement creux. Alors on pourrait dire, ça a toujours été un peu ça, Wong Kar-wai. Pas du tout. Moi, j'ai revu Nos années sauvages hier soir, les personnages sont instantanément bouleversants. J'entendais ce matin un historien sur France Culture, Thomas Schlesser, qui disait que la poésie, c'était de donner de la densité à l'existence, de donner de la profondeur à l'être humain. Et pour moi, tout le projet de Wong Kar-wai, c'était justement ça. C'était vraiment d'aller creuser dans cette espèce de, dans ces beautés des échanges, du temps perdu, du temps gagné. Il y avait un côté archéologue du sentiment et du présent. Ce qui est magnifique chez Wong Kar-wai, c'est qu'on n'est jamais perdu dans le passé et on n'est jamais projeté dans l'avenir. Et ce sujet, il était fait pour lui, puisque le boom économique de Shanghai des années 90, c'est vraiment ce moment où la Chine dit adieu à la révolution, c'est-à-dire à l'avenir, et se retourne complètement vers le passé. Et à mon avis, il y avait un grand sujet à traiter là, de manière critique, et il ne le fait absolument pas. C'est-à-dire que c'est complètement conquérant. Moi, j'ai l'impression de voir Dallas, c'est-à-dire que je vois des gens qui se regardent à la fenêtre, en chien de faïence. Je comprends rien à l'intrigue. Il a quand même plus de 23 heures de récit. C'est des épisodes courts de 45 minutes, mais qui m'ont paru interminables. Je ne comprends pas du tout ce qu'il raconte, à part qu'il y a un espèce de Neo Gatsby qui arrive de nulle part, qui s'est enrichi, qui est vraiment le cliché du personnage taiseux, qui n'est que beauté, qui n'est que mystère, et qui est courtisé par des femmes qui gesticulent dans tous les sens comme des hôtesses de l'air. voilà, moi je suis complètement perdu
par ce récit. C'est vous qui voyez ça comme des hôtesses de l'air, mais ce ne sont pas du tout des
hôtesses de l'air. Moi je les vois gesticuler comme dans la pub. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, les femmes chez Wong Kar-wai avaient une telle puissance pour faire avancer les récits, et là je trouve qu'elles tournent autour de lui comme des abeilles et que leur puissance, entre guillemets, n'est que vocale, c'est-à-dire qu'on les entend, mais quelque part elles ne font absolument pas avancer le récit.
Mais est-ce que c'est pas une question là, d'écriture? Quelle est la part de participation de Wong Kar-wai à l'écriture même?
Alors déjà mes excuses aux hôtesses de l'air, qui ont du pouvoir elles aussi dans leur travail, je l'espère en tous les cas. Sur l'écriture, c'est vrai qu'en fait ce qu'il faut peut-être peut-être accepter aussi, et on peut, moi je conçois, enfin pour moi c'est pas une grande œuvre de Wong Kar-wai et qu'on a en face de nous, il faut accepter que ça s'inscrive dans un schéma de production et d'écriture qui est celui qu'on connaît très mal en France, en tout cas moi je le connais très peu parce que j'en ai pas vraiment
débuleux, ouais. les
C-dramas, voilà, donc on me dit les K-dramas, les K-dramas pour la Corée, les C-dramas pour la Chine, c'est l'ère des plateformes, donc Wong Kar-wai il est là quand même pour respecter un format et fournir et ramener cette espèce de tank narratif à destination. Alors on peut pas se contenter de ça évidemment, hein. C'est pas parce que ça fait 30 épisodes et que c'est difficile de faire 30 épisodes qu'on va adorer la série quoi qu'il arrive, mais moi, ce que je trouve, disons qu'il était dans une sorte de haute couture dans son cinéma. Là, on est dans la production industrielle, très clairement. Donc, on est dans la problématique sérielle, dans la problématique des séries. Et moi, j'y vois quand même une sorte d'odyssée. Alors, encore une fois, on a eu accès, pour l'instant, et je n'ai pu voir, moi, que 10 épisodes sur 30. Donc, c'est un tiers.
Mais on aura 10 fin mars.
Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quand même un sujet qui me tient, c'est-à-dire ben, la naissance du capitalisme, c'est aussi les vies transactionnelles qui sont les nôtres aujourd'hui, que je trouve qu'il filme de façon assez subtile. Enfin, subtil, c'est peut-être pas le mot. En tout cas, il y va, quoi. C'est-à-dire qu'il évite pas du tout son sujet. Moi, j'aime bien les personnages annexes. Il y a un kiosquier comme ça, qui fait comme ça, qui est une espèce de grand sage par rapport à tous ces personnages qui sont comme dans une ruche. Il y a des épisodes que j'aime beaucoup sur la production de t-shirts, dont ils essaient de produire en Chine des t-shirts aussi qualitatifs que ceux qui... Enfin, des polos, plus exactement, que ceux qui viennent d'Europe, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, un tout petit peu même un peu ironique, parce qu'ils voient bien... Ils filment quand même des gens qui s'agitent et qui... comment dire, perdent leur sens moral assez vite, quoi. Mmh. Moi, je pense qu'il reste quand même assez comme ça dans une forme de critique qui n'est pas une critique politique acerbe, hein, du tout. Et puis, encore une fois, là où je rejoins Charles, c'est que disons que le geste du grand cinéaste qui fait une série comme ça à la fin de sa carrière, bah, on a tous en tête Twin Peaks The Return de David Lynch, qui était une sorte de mausolée, enfin, qui est devenu un mausolée au fil des années. En fait, on s'en est rendu compte. Là, c'est tout autre chose. C'est aussi ce qui me plaît, c'est-à-dire qu'on est presque dans un rythme de comédie classique, je dirais presque des années 30 américaines, quoi. Mmh. Il y a une joie de filmer qui m'a paru extrêmement rafraîchissante.
Charles Bosson.
Moi, ce qui m'a dérangé vraiment profondément, c'est cet aspect presque un peu propagandiste. C'est-à-dire, c'est vraiment une série qui, d'ailleurs, a beaucoup restimulé le tourisme à Shanghai. Les touristes venaient par milliers visiter le décor, goûter à la nourriture traditionnelle. Et je me dis que malheureusement, ce chemin-là du cinéma de Wong Kar-wai, il l'avait déjà un petit peu entamé dès In the Mood for Love, qui avait déjà ce côté extrêmement chic, extrêmement glamoureux, de plus en plus tourné vers la publicité, qui reste un chef-d'œuvre absolu, je ne dis pas le contraire, mais par exemple son dernier film qui était The Grandmaster était pour moi déjà un signe d'un cinéaste qui ne savait plus tout à fait ce qu'il cherchait ou ce qu'il voulait filmer. Et j'ai l'impression que le grand problème de cette œuvre-là, c'est que c'est un film, c'est une série sous cloche, c'est une série sous tutelle, c'est une série qui est surveillée. Et moi, je n'y trouve aucune espèce de liberté. Il y a un grand roman, apparemment de 1000 pages, qui est en cours de traduction, qui arrivera dans l'année, d'un auteur qui s'appelle Jin Yucheng, qui est une œuvre proustienne comme ça de 1000 pages, qui fait l'histoire de Shanghai des années 60 aux années 2000, qui est vraiment le moment, ce que disait Olivier tout à l'heure, que Wong Kar-wai n'a pas connu, puisque là, lui, il est parti à Hong Kong. Et donc, une fois de plus, on ne peut pas ne pas imaginer ce qu'aurait été la série de quelqu'un qui va chercher à travers la matière de la série un temps trouvé, un temps qu'il n'a pas connu et qu'il va examiner. Magnifique de parler des t-shirts, puisque aujourd'hui, on arriverait presque à Wang Bing et à jeunesse, hein, c'est-à-dire que c'est les ancêtres de ça. Seulement, moi, je ne vois jamais l'ombre d'une critique, je ne vois qu'une série qui prône vraiment la réussite et les valeurs positif du capitalisme, et je trouve que Wong Kar-wai, malheureusement, s'est perdu dans ses sublimes façades et ses néons.
Je suis pas sûr quand même qu'il soit vraiment dupe de ce qu'il filme à ce moment-là. Ce qui m'a aussi, moi, intéressé et touché même dans la série, c'est que au fond, effectivement, c'est peut-être un peu grossier, mais ce personnage d'entrepreneur néolibéral, c'est aussi lui en tant que jeune génie du cinéma dans les années 90. Voilà, c'est quand même assez évident qu'il revient sur sa jeunesse de cinéaste dans le geste, en tous les cas, et qu'il le fait d'une façon... il le fait avec ses moyens d'aujourd'hui.
Blossoms Shanghai de Wong Kar-wai, c'est en cours de diffusion sur Mubi. Mubi et les 10 premiers épisodes sont présents depuis le 26 février et 10 épisodes arriveront fin mars et fin avril. Olivier Joyard, c'est encore à vous pour votre coup de cœur pour la série Pécheresse.
Oui, Pécheresse, c'est d'autant plus un coup de cœur qu'une série ado sous nos latitudes, ça ne court pas les rues. Hein, alors que le genre s'est épanoui dans le monde anglo-saxon de Freaks and Geeks à Skins hein, pour les États-Unis et l'Angleterre. En France, on a souvent regardé ailleurs, hein, comme si ce type de récit était trop anodin ou comme si le roman d'apprentissage restait forcément loin du contemporain et loin du petit écran. Récemment, l'une des seules plateformes qui avait tiré son épingle du jeu dans ce domaine, France TV Slash, a d'ailleurs disparu du paysage. C'est aussi pour ça que l'arrivée de Pécheresse relève du miracle. Bon, évidemment, ça tombe bien parce que l'action se déroule presque intégralement derrière les murs d'un couvent où les nonnes accueillent dans leur internat catholique, des jeunes filles en rupture de banc comme Cassidy, qui est issue d'une famille pauvre et virée par sa mère. Il faut dire que cette blonde platine a entamé une carrière de camgirl alors qu'elle est encore mineure. 17 ans. C'est donc cet âge que la créatrice de Pécheresse, Charlotte Sanson, explore avec le léger romantisme du souvenir de la jeunesse perdue, mais aussi, et surtout, je dirais, la volonté de toucher juste sur ce qui anime la génération née à la fin des années 2000. Elle avait déjà abordé le sujet ado dans sa série précédente, Les 7 vies de Léa, sur Netflix. On sent chez elle, si ce n'est une obsession, je ne pense pas que le terme soit le mot juste, mais en tout cas un plaisir et un engagement à filmer des corps et des âmes en mutation. Ce que la série comprend, c'est qu'en 2026, entrer dans la peau des ados, c'est aussi explorer leur vie numérique, une vie parallèle. Et Pécheresse le fait assez bien. Elle entre dans les détails, puisque l'enjeu principal des premiers épisodes, c'est comment amener la fibre clandestinement la nuit dans le couvent, tandis qu'un autre épisode entier, cette fois-ci, le cinquième sur les six que compte la saison, est consacré à un live Twitch de 24 heures qui est mené par plusieurs résidentes. Là, tout se révèle dans une forme de chaos puisque nous sommes dans une comédie existentielle, c'est-à-dire une comédie qui prend ses personnages au sérieux. Et pour moi, Pécheresse dépasse l'observation fun d'un âge charnière pour prendre de la hauteur et interroger le sens de la foi et du désir. Rien moins que ça, quoi. Elle aborde des thèmes brûlants, l'identité sexuelle, spirituelle, de genre. Et d'abord, elle le fait en filmant des rituels de sororité. On entend partout ce mot, mais ici il n'est pas vain, il sonne comme une quête d'amour, d'amitié et de sécurité dans un monde violent. Ça donne une série capable de créer des images peu vues, voire jamais vues, une jeune femme musulmane voilée en couple avec une personne non-binaire par exemple. Charlotte Sanson définit Pécheresse comme une sitcom punk. Personnellement, j'en avais jamais vu et je me suis rendu compte que ça manquait.
Pécheresse de Charlotte Sanson, c'est en cours de diffusion sur OCS Ciné+, et disponible à la demande.